Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le mouvement contre la réforme des retraites marque le pas. Il y avait moins de monde aujourd'hui dans les manifestations, entre 339 000 et 885 000 personnes selon les sources. Demain, Édouard Philippe doit présenter en détail la réforme. Dossier dans ce journal avec Laurent Kramer, Pierre Neveu et notre invité Raymond Soubi, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. L'usine Lubrizol de Rouen, autorisée à reprendre partiellement son activité, 2 mois et demi après l'incendie du site Seveso, décision contestée par les défenseurs de l'environnement, les explications d'Étienne Monin. Aux États-Unis, les démocrates veulent destituer Donald Trump pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès. La procédure s'accélère, mais elle n'a pratiquement aucune chance d'aboutir. Gregory Phillips nous appellera de Washington. Les syndicats n'ont pas réussi pour l'instant à amplifier le mouvement contre la réforme des retraites. Les manifestations aujourd'hui étaient moins fournies que jeudi. 885 000 manifestants dans toute la France selon la CGT qui en avait compté 1,5 million la semaine dernière. De son côté, le ministère de l'Intérieur avance le chiffre de 339 000 personnes contre 806 000 le 5 décembre. Des manifestants moins nombreux mais toujours déterminés à faire plier le gouvernement. Exemple à Paris où la CGT revendique 180 000 manifestants cet après-midi. Ils étaient 27 000 d'après le cabinet indépendant Occurrence. Le reportage de Laurent Kramer.
Dans le cortège parisien, de très nombreux enseignants, malgré la promesse de revalorisation avant d'appliquer la réforme, la confiance est rompue, explique Sonia, professeure des écoles venue de l'Essonne.
On a un ministre qui n'a jamais écouté nos revendications. Il y a un manque de confiance totale de la part des enseignants parce que ce sont des injonctions, des menaces. Et aujourd'hui, notre ministre, il est plus crédible. Son système par points, on n'en veut pas. Donc toutes les promesses qu'il nous fera, de toute façon, on n'y croit pas.
Décaler son application aux plus jeunes générations ne suffira pas non plus à éteindre la contestation, explique de son côté Mathieu, conducteur de RER à la CGT.
C'est-à-dire que je vais avoir un collègue, parce qu'il est né un an après moi, il va pas avoir les mêmes droits que moi. C'est dégueulasse, c'est inadmissible, c'est une banqueroute morale. Je suis fier que mon organisation syndicale, la CGT, ne mette pas un doigt là-dedans. Je serai en grève jusqu'au retrait. Et s'il faut manger la bûche de Noël sur les piquets de grève, vous m'y trouverez.
Une nouvelle journée de mobilisation nationale est déjà en préparation, et cela, quelles que soient les annonces du Premier ministre, demain midi.
Et effectivement, l'intersyndicale annonce ce soir une manifestation nationale dans une semaine, le 17 décembre à Paris. Mais dès après-demain, jeudi, les syndicats appellent à des actions locales, au lendemain donc de l'intervention d'Édouard Philippe. Le Premier ministre quelque peu chahuté cet après-midi à l'Assemblée, lors de la séance des questions au gouvernement. Pierre Neveu, les critiques sont venues à la fois de la droite et de la gauche.
Oui, c'est parce que le débat s'est déplacé dans la rue ces derniers jours, loin de l'hémicycle. Les députés se sont emparés de la question de la réforme des retraites cet après-midi. La France insoumise, ciblant ses critiques sur Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite du gouvernement, accusé de conflit d'intérêts pour avoir été administrateur bénévole d'un institut de formation dans les assurances, d'où la charge sans appel du député du Nord, Adrien Quatennens.
Monsieur le Premier ministre, vous êtes démasqué. Qui peut croire que vous soyez soucieux d'universalité? Vous voulez faire avaler au pays une réforme au service des assureurs, des banques et des fonds de pension, qui ont d'ailleurs été reçus en grande pompe à l'Elysée par Monsieur Macron et par le haut commissaire aux retraites.
Et si la France insoumise demande le retrait de la réforme, Christian Jacob pour Les Républicains dénonce quant à lui la méthode et l'architecture du projet porté par le Premier ministre.
Votre méthode de concertation, Monsieur le Premier ministre, a été, reconnaissez-le, un fiasco total, car non seulement votre projet est de plus en plus illisible, mais il est de plus en plus anxiogène. Les Français ne veulent pas d'un système par points qui fera un nombre considérable de perdants et de sacrifiés.
Alors la réforme se fera par un allongement progressif de la durée du temps de travail, martèle Édouard Philippe. Il détaillera demain l'ensemble des mesures devant le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et c'est le choix de cette assemblée consultative qui fait l'objet des critiques du groupe LR à l'Assemblée.
J'aurai l'occasion de répondre point par point au CESE. Pourquoi ? Parce que le CESE représente les organisations syndicales et patronales. Parce que le CESE a été créé en 1958 par le général de Gaulle.
et parce que c'est sa fonction d'être la chambre du dialogue social. Je vous remercie.
Et devant les députés LREM ce matin, le Premier ministre a déjà prévenu qu'il ne fera pas d'annonce magique demain midi. En tous les cas, pas d'annonce qui puisse faire cesser les manifestations.
Pierre Neveu, merci. Les transports sont restés largement perturbés aujourd'hui à la SNCF comme à la RATP. En revanche, il y avait moins de grévistes à l'éducation nationale et dans la fonction publique en général. Demain, la grève continue sur les rails avec notamment un TGV sur quatre en circulation. À Paris, 10 lignes de métro resteront fermées toute la journée. Invité de ce journal, Raymond Soubi, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac. Bonsoir.
Bonsoir.
Je précise que vous présidez aujourd'hui le cabinet Alixio, spécialisé dans le conseil en stratégie sociale. Raymond Soubi, je le disais à l'instant, la mobilisation a été moins importante aujourd'hui que jeudi dernier. Faut-il y voir un premier essoufflement du mouvement ou bien est-ce trop tôt pour se prononcer ?
Oui, je crois que c'est assez normal qu'il y ait un essoufflement aujourd'hui parce que le 5 décembre, dans la rue, les manifestations avaient été considérables. Plus de 800 000 manifestants. Donc il n'est pas anormal aujourd'hui qu'il y en ait moins. Et du côté des grèves, ce qui est clair, c'est qu'il y a sensiblement moins de grévistes dans la fonction publique et en particulier dans l'enseignement. Et un peu moins, mais quand même, le mouvement se tient très fort à la RATP et à la SNCF. Et c'est pas anormal, après tous ces jours derniers, que le mouvement, je dirais, s'essouffle un peu, ralentisse un peu.
Donc selon vous, cette mobilisation peut repartir ?
Je pense qu'il faut bien voir la séquence. Le Premier ministre parle demain. Il va annoncer un certain nombre de sujets concrets. Par exemple, pour les enseignants, les garanties qu'ils peuvent avoir. Il va dire quelles générations d'actifs vont être sorties de la réforme. Et puis, il y a une série de points, en fait, qui seront renvoyés à des négociations ultérieures. Donc, il ne faut pas penser que demain, on saura tout. On ne saura pas tout. Et les discussions ou concertations vont continuer. Donc on n'est pas du tout à l'écart de la possibilité de résurgence de mouvement qui apparaîtrait dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans un mois. Je pense qu'on ne va pas avoir des mouvements continus dans le temps, de grève ou de manifestation, de l'intensité du 5 décembre, mais on peut avoir... au fur et à mesure que les négociations se déroulent, eh bien, des résurgences de mouvements, surtout que le climat social est quand même très très chaud.
Mais est-ce qu'il faut s'attendre à des concessions de la part d'Édouard Philippe demain ?
Oui, je pense. Je pense qu'il va, en précisant un certain nombre de points, faire des concessions. Par exemple, il était prévu dans le rapport de Jean-Paul Delevoye que les générations nées après 1963, c'est-à-dire les gens qui accéderaient à la retraite en 2025, du début d'application de la réforme, seraient concernés. Or, il est possible que le gouvernement sorte des générations d'actifs qui sont à 5 ou 10 ans ou peut-être plus de la retraite, ce qui veut dire qu'un pourcentage non nul des actifs, en tout cas dans les régimes spéciaux, serait sorti de la retraite et donc ne serait plus concerné du tout par la réforme. Et il y a une autre concession sur un terrain chaud qui est celui des enseignants, où vraisemblablement, dont on sait très bien qu'ils perdent, et dont ils ont bien compris qu'ils perdent beaucoup à la réforme. Et en plus, ils n'ont pas de primes, alors qu'on intègre les primes avec calcul des pensions. Et donc là, il va sûrement y avoir des mesures de compensation, de telle manière que les enseignants ne perdent pas dans la réforme. Et ce ne sont que quelques exemples. Il peut aussi y avoir d'autres sujets. Par exemple, le gouvernement peut décider que lorsqu'on va convertir des droits acquis dans l'ancien système, dans le nouveau système, il y a un coup de pouce qui soit donné à certaines catégories. Donc je pense que le gouvernement va faire sûrement des concessions par rapport au modèle pur et dur de la réforme systémique.
D'une façon générale, Raymond Soubi, comment jugez-vous la façon dont le gouvernement défend sa réforme des retraites ?
Bien, je dois dire d'abord qu'elle est très difficile à expliquer, parce qu'elle est très simple le jour où elle s'applique, puisque tout le monde a pratiquement les mêmes droits. Mais enfin, pour passer d'un système corporatiste où il y a 42 corporations et des régimes très différents dans chacune à un seul système, ça bouscule beaucoup d'habitudes, beaucoup de comportements, beaucoup de références. Et donc, c'est d'abord très difficile à expliquer, parce que c'est très compliqué et très technique. Il faudrait presque expliquer à chacun quel est son cas, ce que n'a pas fait le gouvernement, qui est resté à un niveau très général. Et donc, tout l'enjeu pour lui des prochaines semaines, c'est que la copie ou que le tableau apparaisse de plus en plus clairement et soit précisé, éclairé, notamment par des négociations avec les syndicats qui le voudront bien, comme par exemple la CFDT ou l'UNSA.
Justement, le gouvernement parle de concertation, beaucoup plus rarement de négociation. Le choix des mots, c'est important dans un rapport de force ?
Oui, dans la concertation, l'État consulte et décide seul. Dans la négociation, il essaie d'avoir un accord en bonne et due forme de l'autre partie. Là, je pense que sur certains aspects, il va d'abord tenter la négociation sur un certain nombre de sujets pratiques, comme par exemple avec les enseignants ou avec les régimes spéciaux de la RATP et la SNCF. Je pense qu'il va tenter cette négociation pour pouvoir dire à la fin que, un, sa réforme reste intacte, que, deux, il a procédé à la négociation et d'essayer un peu de cacher qu'il aura fait beaucoup de concessions pour y parvenir.
Dernière question, Raymond Soubi, à partir de quel degré de mobilisation un gouvernement doit-il commencer à s'inquiéter ?
Ben, il doit commencer à s'inquiéter quand le trafic est paralysé pendant 8 jours, 10 jours, 15 jours. On n'en est pas encore là. Ou encore lorsqu'il y a des manifestations de rue qui dégénèrent. Ou encore lorsqu'autour du sujet des retraites se coagulent d'autres mécontentements et que donc on va vers un mouvement social généralisé. Il faut être inquiet à ce moment-là. On n'en est pas encore là.
Raymond Soubi, président du cabinet Alixio, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. L'usine Lubrizol pourrait reprendre partiellement son activité à Rouen. C'est en tout cas ce que souhaite le CODERST, le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires de Seine-Maritime. Le 26 septembre dernier, Lubrizol, un site Seveso, était ravagé par un incendie. Deux mois et demi plus tard, le CODERST a voté en faveur de la reprise de l'activité. Décision contestée par les défenseurs de l'environnement, Étienne Monin.
L'avis de ce comité est déterminant. Le préfet avait fait savoir avant la réunion qu'il comptait suivre sa décision. Il a donc voté à 20 voix contre seulement 4 pour la reprise partielle de l'activité, avec notamment le poids des services de l'État et des collectivités territoriales. Le conseil suit l'avis de la direction régionale de l'environnement, la DREAL. Elle avait considéré que l'emploi et la filière étaient en jeu. Et elle estimait aussi que l'arrêt de l'activité n'avait pas eu d'impact sur la sécurité. Lubrizol souhaite reprendre l'activité sur 2 unités de mélange qui n'ont pas été touchées par l'incendie. La mise en fût et le stockage aurait lieu sur un site extérieur. L'entreprise employait un peu moins de 400 personnes avant la catastrophe. Elle estime que son activité concerne indirectement 2000 emplois. 2 associations de défense de l'environnement ont voté contre cette reprise. On ne sait pas encore quand l'activité pourrait reprendre précisément. La prochaine étape, c'est la signature par le préfet de l'arrêté qui pourrait arriver très vite.
À l'étranger, l'actualité est dominée ce soir par cette nouvelle étape franchie dans la procédure de destitution visant Donald Trump. Les opposants démocrates au président américain ont retenu 2 chefs d'accusation à son encontre, l'abus de pouvoir et l'entrave à la bonne marche du Congrès. Rappelons que Donald Trump est soupçonné d'avoir fait pression sur les autorités ukrainiennes pour l'ouverture d'une enquête sur son rival Joe Biden. Grégory Phillips nous appelle de Washington.
Les démocrates ont finalement retenu ces 2 chefs d'accusation à l'encontre de Donald Trump. Abus de pouvoir et obstruction au travail du Congrès. Au cœur du problème, il y a ce coup de téléphone le 25 juillet dernier entre le locataire de la Maison Blanche et le président ukrainien Zelensky, durant lequel Trump a conditionné l'octroi d'une aide militaire américaine à l'obtention d'informations sur son rival politique Joe Biden. Ça, c'est l'abus de pouvoir. L'obstruction, c'est le fait que la Maison Blanche a refusé depuis 2 mois de coopérer avec cette enquête parlementaire. La semaine prochaine, la Chambre des représentants va donc, selon toute probabilité, voter l'impeachment de Trump. Puis en janvier, il y aura un procès en destitution au Sénat. Ça n'est arrivé que 2 fois dans l'histoire des États-Unis, Bill Clinton en 1998 et Andrew Johnson au 19e siècle. Mais il n'y a quasiment aucun risque que Trump soit destitué par un Sénat majoritairement républicain. D'ailleurs, la porte-parole de la Maison-Blanche pronostique que le président sortira totalement blanchi de ses fausses accusations. Et Trump, qui n'a de cesse de dénoncer une chasse aux sorcières, parle désormais, pour évoquer cette procédure lancée par les démocrates, de pure folie politique.
Et Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis. Emmanuel Macron réclame ce soir la libération immédiate des 2 chercheurs français emprisonnés en Iran. Farida Abdelrah et Roland Marshall ont été arrêtés en juin dernier à Téhéran. Le régime des Mollahs les soupçonne d'atteinte à la sûreté de l'État iranien. Dans un tweet rédigé à l'occasion de la journée Journée internationale des droits de l'homme, Emmanuel Macron dénonce un emprisonnement intolérable. Le temps demain sera pluvieux du sud-ouest au nord-est. Il neigera en montagne. Ailleurs, le ciel sera variable et venteux. Les températures minimales seront comprises entre moins 2 et 9 degrés de l'intérieur des terres vers le littoral. Les maximales évolueront entre 4 et 15 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.